Radio Okapi.
Des hommes armés ont assassiné le chef de terre de Kimpansi, groupe Makisia, dans le secteur de Wamba, territoire de Bagata Okwilu. Il a été tué à l'aube hier matin par ces bandits qui ont mené une attaque dans ce village. Un déplacement massif des populations est signalé à la suite de cette attaque. Des étudiants congolais boursiers du gouvernement provincial du Lualaba sont dans la galère à Chypre et en Tunisie. Lauréats de l'examen d'État 2019 et 2020, ils sont sans bourse depuis l'année dernière. Leurs visas ont déjà expiré et les parents sont aux abois. Comme toute réaction, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation du Lualaba affirme que la situation est en train d'être décantée. David Mouazé est l'invité de ce journal. Le président de la coopérative des planteurs, acheteurs, revendeurs des produits agricoles dans le Ouattalinga va parler de la production agricole dans ce secteur ainsi que des défis rencontrés dans la production et l'exportation de ces produits. Bonsoir à tous. Parlons d'abord de cette triste nouvelle concernant les bébés siamois transférés de la province du Kwilu à Kinshasa pour une intervention chirurgicale dans le but de les séparer. Nous apprenons que les deux enfants sont décédés après 6 jours d'observation à la clinique Ngaliema. Selon le député national Gary Sakata, qui dit avoir échangé avec le médecin de cet hôpital, les deux bébés avaient des malformations congénitales au niveau des cœurs qui ont compliqué leurs chances de survie. L'élu de Bagata plaide pour une bonne prise en charge sanitaire de leur maman après l'accouchement par césarienne. Irène Boma.
Transféré de Bandundouville à Kinshasa le 22 mars dernier pour une intervention chirurgicale, les jumeaux siamois n'avaient pas encore été opérés. Ils étaient gardés en observation à la clinique Ngaliema pour quelques examens supplémentaires avant l'intervention. Malheureusement, 6 jours après, ces nouveaux-nés qui avaient aussi des malformations congénitales cardiaques sont décédés. Gary Sakata, député national élu du territoire de Bagata.
J'ai rencontré personnellement le médecin directeur de clinique Ngaliema. J'ai cru comprendre de ce qu'il a dit que ses enfants avaient des malformations congénitales, notamment au niveau du cœur, qui ne pouvaient pas leur laisser l'espoir de survivre très longtemps. Ils auront même fait appel lors de leur réunion hebdomadaire aux spécialistes d'autres pays qui ont confirmé les mêmes diagnostics.
Rappelons que ses frères siamois sont nés le 20 mars courant au centre de santé de référence de Misai, dans la zone de santé de Kikongo, en territoire de Bagata Okwilu. Ils étaient accolés au niveau du thorax et de l'abdomen et possédaient des cœurs, des têtes, des sexes, 4 membres supérieurs et 4 membres inférieurs. Ils ont été acheminés à Bandundouville avant leur transfert à Kinshasa par un vol spécial affrété par une autorité nationale. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Toujours dans le territoire de Bagata, province du Kwilu, une nouvelle autorité traditionnelle a été tuée par les assaillants armés. Il s'agit du chef de terre de Kimpansi, au groupement Kisia, dans le secteur de Wamba. Il a été abattu à 3h du matin hier lundi par ces bandits qui ont fait incursion dans ce village. Le directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires sociales du Kwilu, Jérémy Bikel, qui livre l'information, rapporte qu'un déplacement massif des populations est de nouveau signalé. Plusieurs se dirigent vers la cité de Fatundu pour y trouver refuge. Il l'a dit à Irène Boma.
Il y a eu attaque le 26 mars à 3h du matin du village Kimpasi dans le groupement Kisia. Nous avons encore un bilan provisoire d'une personne qui est morte, qui est le chef de terre et... Jusque-là, nous attendons encore la suite. Donc, jusqu'à ce jour, la sécurité n'est pas encore suffisamment assurée, bien qu'il y a certains éléments de la police qui sont commis dans ces endroits. Mais il y a encore des attaques. Les populations se déplacent, ils rentrent là où ils étaient. Par exemple, il y avait des personnes qui avaient quitté autrefois, qui étaient arrivées à Fatundu. Et quand il y a eu le déploiement de la police et des militaires, il y a des populations qui rentraient. Actuellement, donc, il y a encore un mouvement de retour dans la cité de Fatundu des déplacés. Je crois d'ici demain, nous allons encore avoir le bilan exact, parce que ce sont des personnes qui se déplacent et puis certains qui fuient dans des forêts. Donc, nous allons avoir le bilan exact des personnes déplacées qui se sont ajoutées dans le dans les effectifs qui sont actuellement à Fatondo d'ici demain.
Dans la province de l'Ituri, environ 330 personnes sont tuées depuis le mois de janvier de cette année par différents groupes armés dans les territoires de Djougou et de Mahagi. Ces chiffres ont été publiés hier par le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Siméon Banga, qui se trouve à Kinshasa pour faire des plaidoyers sur la situation qui prévaut dans cette province. Il demande aux auteurs de ces crimes de cesser les violences et au gouvernement de tout mettre en œuvre pour pacifier cette région. Isaac Raymond.
Les groupes armés Kodeko et Zaïre ont intensifié les violences contre la population dans les territoires des Djougou et des Mahagi, affirme le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Siméo Banga Tchombe a passé en revue quelques cas récents des tueries attribuées à ces milices. Il s'agit entre autres des 17 passagers pris en otage la semaine dernière vers Iga Barrière qui ont été abattus par Kodeko. Des sources de sécurité indiquent que les corps de ces otages et des 3 chauffeurs ont été brûlés par ces groupes armés pour effacer toutes les traces, ce qui porte environ 330 personnes tuées. Ces 3 dernier mois, précise cet élite de Djougou. Il ajoute que les miliciens se comportent comme des loups qui dévorent des paisibles citoyens sans moyens de défense. Il les exhorte à cesser les violences pour permettre aux fils et filles de l'Ituri de se mettre au travail pour la reconstruction de leur entité. Siméo Banga Tchombe.
Dans toutes les sociétés à travers le monde, il y a toujours eu des problèmes. La violence ne résout jamais le problème. Arrêtez de tuer, laissez vos armes. Notre province est détruite. Concentrons-nous au travail pour reconstruire notre province.
Face à l'escalade des violences en Ituri, des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de traquer ces groupes armés pour les contraindre à déposer les armes et à adhérer au processus de DDRCS. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au nord Kivu, dans le territoire de Masisi, plusieurs sources affirment que la cité de Mweso est à nouveau occupée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda depuis ce mardi dans la matinée à l'issue des violents combats contre les FRDC et les groupes d'autodéfense. C'est dans le groupement Bachali Mokoto où ces rebelles et leur soutien rwandais ont multiplié des attaques ces derniers temps et occupent plusieurs localités. La situation est également tendue ce mardi dans la région de Bihambwe, dans le groupement Mufuni Kibabi, en chefferie de Baoundé. D'après la société civils, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont attaqué depuis ce matin les positions des FRDC et des forces d'autodéfense, provoquant un déplacement de la population. Nous l'avions dit au sommaire, des étudiants congolais boursiers du gouvernement provincial du Lualaba sont en détresse à Chypre et en Tunisie. Lauréats de l'examen d'État 2019 et 2020, ces apprenants ne reçoivent plus de bourses depuis l'année dernière. Ils ne participent plus aux cours, d'autres ont même été déguerpis de leurs appartements. Leurs visas ont déjà expiré, jeudi Daniel Kachama.
Ces étudiants, une trentaine au total, ne savent plus à quel sein se vouer. L'un d'entre eux lance un cri d'alarme.
Depuis l'année passée, on n'a pas pu étudier parce que le gouvernement n'avait pas envoyé l'argent pour nos études jusque-là. Et certains d'entre nous ont été renvoyés de leur domicile et leurs bagages ont été mis dehors. Et aussi, nous n'avons pas de permis de résidence légal. Nous vivons illégalement parce que on n'a pas encore renouvelé nos comptes Visa. Nous avons déjà raté l'année passée et nous ne voulons pas rester comme ça sans rien faire.
Les parents sont désemparés. Ils se démènent pour envoyer un peu d'argent à leurs enfants pour leur survie. « Je me suis démené pour faire revenir ma fille à Kolwezi », déclare l'un d'entre eux. Les autres ne peuvent pas le faire faute d'argent. L'un des parents s'exprime.
« La situation est vraiment catastrophique. Hein. C'est maintenant qu'on apprend qu'on va donner le frais de subsistance. Bon, si on trouve quelque chose, on envoie, mais si ça dépendait de nous, parents, nous n'avons pas les moyens pour les envoyer là-bas. » Et là, c'est le gouvernement qui les avait envoyés là-bas et qui devait les prendre en charge. Mais comme le gouvernement les a abandonnés, voilà, le parent se débrouille tant soit peu, mais on n'arrive pas vraiment à réunir le fonds nécessaire pour mettre nos enfants à l'aise.
Du côté du gouvernement provincial, on ne communique pas sur l'affaire. Cependant, les directeurs des cabinets du ministre provincial de l'éducation rassurent. La situation est en train d'être décantée, a-t-il affirmé, sans trop fournir les détails.
Le développement de la province de la Mongala passe par l'apport de toutes les couches de la population et surtout de toutes les générations. La contribution d'un chacun, quelle que soit sa génération, s'avère indispensable pour la construction de cette province issue du démembrement de l'ancienne province de l'Équateur. C'est ce que pense le président du Conseil provincial de la jeunesse de la Mongala. D'après Maître José Lipango, les défis à relever pour l'émergence de la province sont énormes et ce travail ne peut se faire dans la division. Division constatée après le décollage raté de la province au lendemain du forum socio-économique organisé en août 2015. Jacques-Yves Moulima.
Le constat fait depuis plusieurs décennies et surtout après la décentralisation qui a fait de la Mongala une province, les divisions intergénérationnelles et le sectarisme teinté de la politisation œuvre de certains individus, a souligné Maître José Lipango, président du Conseil provincial de la jeunesse de la Mongala, lors d'une déclaration à la presse ce lundi 27 mars, n'ont fait que plonger la province dans les clivages et la destruction de son tissu économique et social. Raison pour laquelle le Conseil envisage un autre forum, cette fois-ci intergénérationnel, pour unir les filles et fils de la province. Seule voie qui pourrait permettre l'éclosion de cette entité, souligne José Lipango.
L'objectif global est de réconcilier les enfants de la Mongala afin que chacun apporte sa pierre de construction pour l'édification de notre maison commune qui est la Mongala.
Et maître d'insister sur l'apport des aînés dans cette démarche.
Nous voulons tirer profit de leurs expériences et trouver des solutions idoines pour que la Mongala puisse décoller.
L'appel a donc lancé à l'endroit de tous les enfants de la Mongala où qu'ils se trouvent pour participer à ce forum qui s'ouvre dans le premier quinzaine du mois d'avril sur place. Ali Salah.
À l'Équateur, la nouvelle société civile hausse le ton. Elle dénonce la léthargie dans l'exécution des projets relatifs au programme de développement local des 145 territoires dans la province. Les réunions de coordination et de suivi ne se tiennent pas. Plusieurs chantiers traînent à démarrer. Le peu de chantiers commencés ne sont qu'à l'état embryonnaire. La nouvelle société civile craint un détournement de fonds au détriment de la population. Elle demande l'implication des autorités tant nationales que provinciales en vue de l'exécution de ces projets. Le secrétaire exécutif provincial de la nouvelle société civile Équateur, Jean Inonga, a tiré la sonnette d'alarme au micro de Paul-Richard Malengela.
Vous savez que le premier programme, c'était qu'on puisse construire les bâtiments administratifs, les écoles ainsi que les hôpitaux. Comme partie prenante, il y a la société civile. Concrètement, nous ne sommes pas associés. Nous sommes des figurants. Des réunions, il n'y en a pas. Le dessin titre liciterait, nous ne connaissons même pas. Le programme d'exécution, on n'est pas là. Le plan, nous ne connaissons pas. Aucune maquette originale du programme, nous n'en avons pas. On est vraiment moins informés par rapport à ça. Prenons par exemple Abikoro. On avait commencé par la construction d'un bâtiment administratif. Il y a un point focal qui est là-bas. Il nous a dit clairement que vraiment, même au niveau de la fondation, ça commence mal. Parce qu'il y a un monsieur qui était passé là-bas, il a seulement bousculé. Mais la fondation a écroulé. À Bassankousou, nous avions appelé un autre point focal qui est là-bas. Là-bas, on a clôturé seulement avec des tôles les espaces prévus pour réaliser ces bâtiments. Mais concrètement, là-dedans, il n'y a rien. Même la fondation, il n'y en a pas. Comme la société civile, nous voulons dénoncer que l'autorité nationale puisse un peu recadrer certaines choses parce que la population, elle qui est bénéficiaire. Mais concrètement, il n'y a rien sur terrain.
En réaction, le point focal du projet des 145 territoires a reconnu la lenteur dans l'exécution de ces projets. Albert Chango a plutôt relativisé cette lenteur, étant donné que chaque territoire a ses spécificités. Ainsi, certaines entreprises d'exécution, malgré les fonds reçus, ont-elles le problème d'accessibilité, soit d'approvisionnement. Toutefois, a-t-il conclu, la mission de contrôle et de surveillance qui travaille avec la société civile territoriale est à pied d'œuvre afin d'améliorer le tout. Dans la province du Maniema, la Commission électorale nationale indépendante a débuté ce mardi l'opération d'enrôlement des prisonniers et de la prison centrale de Kindu. Selon le secrétaire exécutif provincial, plus de 600 Congolais se trouvant dans cette maison carcérale vont bénéficier de leurs droits civiques. Pour y arriver, la CENI Maniema a déployé un kit d'enrôlement du centre d'inscription Twendeleye, se trouvant le plus proche de la prison pour cette fin. Florence Kizalunga.
C'est dans un climat de convivialité que ces détenus plus de 600 s'enrôlent. Ceux qui ont eu déjà leur carte remercient les autorités ainsi que la CENI.
Nous remercions le chef de l'État et aussi la CENI Maniema de venir nous amener les machines pour qu'on puisse s'enrôler.
C'est bon puisque je viens de réaliser mon devoir civique malgré que je suis dans la prison. Je suis vraiment content d'avoir une carte d'électeur.
Alors, qui sont concernés par cette opération? Les chefs de division de la justice et garde des Sceaux, Kibundi Laro, qui nous explique.
Ceux qui ont droit ici, c'est tout Congolais d'abord, sauf les militaires et les policiers. C'est-à-dire, il peut être condamné définitivement, mais c'est par le jugement qu'on définit ça. Qu'on définit que non, quelqu'un est privé de sa liberté, des droits civiques ou politiques, ainsi de suite. Mais je pense que dans nos prisons ici du Maniema, nous avons constaté que non, il n'y a pas de tels cas. C'est-à-dire, les prisonniers qui sont ici seront enrôlés pour avoir leur carte.
Le responsable de la CENI Maniema fait savoir que l'enrôlement des prisonniers s'est fait dans toutes les prisons du Maniema. Émile Dimoké.
La même activité que nous sommes en train de faire ici, elle est déjà réalisée dans l'arrière-pays, c'est-à-dire dans les différents territoires. S'ils sortaient de la prison, ils sont annexés à l'épée Twendele.
Le 1er avril, c'est la date probable de clôture de l'enrôlement au Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La justice sénégalaise a annoncé ce mardi avoir arrêté des membres d'un groupe qui visait à semer le chaos et l'insurrection dans le pays pour empêcher le procès jeudi à Dakar de l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi en diffamation par un ministre. Des investigations ont permis de découvrir la confection par ce groupe des produits explosifs, des fumigènes, de cocktails Molotov et des herses, et un déplacement de ses membres pour se procurer des armes dans un marché sous-régional proche de la Guinée. Quatre personnes ont été interpellés pour association des malfaiteurs, actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public, incendie criminel, et 19 sont recherchés selon le procureur général.
L'invité.
Notre invité est le président de la coopérative des planteurs, acheteurs, revendeurs des produits agricoles dans le Ouattalinga, David Mouazé, va nous parler de la production agricole dans le secteur agricole de Ouattalinga, ainsi que les défis rencontrés dans la production et l'exportation de ces produits. David Mouazé s'entretient avec Marc Marofimbo.
David Mouazé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est la situation générale de la production agricole dans le secteur agricole de Ouattalinga actuellement?
Actuellement, le secteur agricole de Ouattalinga est bon. La situation est bonne, sauf la situation sécuritaire qui a toujours dérangé et qui a toujours causé beaucoup de difficultés. Parce que la chefferie de Ouattalinga, c'est une entité qui a un sol fertile, qui accepte toutes les cultures possibles. Parce que avec l'expérience et l'expertise des agronomes, nous avons en tout cas compris que le sol de Ouattalinga ne refuse aucune culture. Parce que auparavant, on nous parlait même des cultures maraîchères qui ne devrait pas être pratiquée dans la chefferie de Ouattalinga. Mais aujourd'hui, nous trouvons en tout cas toutes les cultures, que ce soit vivrières, maraîchères et aussi pérennes, sont vraiment pratiquées et ces cultures produisent une bonne quantité avec un bon rendement qui répond en tout cas aux besoins de la population. C'est par exemple aujourd'hui la culture de cacao. Quand nous parlons du domaine des cultures pérennes, aujourd'hui le cacao a quand même relevé et aussi amélioré tant soit peu les conditions de vie de la population du secteur agricole de Ouattalinga. Il y a eu une société qui s'est installée là-bas, notamment la société ESCO, un client potentiel et privilégié même de la population agricultrice de Ouattalinga. Et aussi nous avons par exemple aujourd'hui la synergie de coopératives pour le développement paysan, SICODEP, qui s'est installée et qui encadre aussi de petits planteurs, parce que ces sociétés ont des agronomes qui accompagnent les agriculteurs, qui inspecte les champs de petits planteurs, notamment aussi la société Congo Cao qui est là, c'est une société SARL, qui a aussi des agronomes pour le moment d'ailleurs, et elle est à l'étape aussi des évaluations et des inspections de champs de petits planteurs. Nous disons, en tout cas, en voyant comment les choses sont en train quand même de s'améliorer, et surtout la culture de cacao qui est en train de répondre tant soit peu aussi à la subvention aux besoins de la population.
Alors, quels sont les défis auxquels le secteur agricole de Ouattalinga fait face?
La chefferie de Ouattalinga ou le secteur agricole de Ouattalinga est en mesure de produire 600 à 700 tonnes. C'est-à-dire du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de février, la chefferie de Ouattalinga est en mesure de produire 600 à 700 tonnes à la seule condition que les services commis à la douane, c'est-à-dire les services frontaliers, qu'ils puissent quand même avoir une surveillance et un contrôle tout azimut pour que tout le produit s'oriente dans le dépôt des sociétés qui payent les taxes et impôts à la République. Malheureusement, nous constatons avec amer, quand il y a des produits qui traversent, n'est-ce pas, la frontière, c'est-à-dire la rivière Lamia clandestinement, et aussi sous la complicité de certains agents des services commis à la douane. Et c'est pour cette raison que nous déplorons cette attitude-là de nos agents de certains services commis à la frontière, surtout congolo-ougandaise, dans la partie de la chefferie de Watalinga, d'avoir, n'est-ce pas, l'esprit patriotique et surtout aussi l'esprit civique pour que ces services nous rendent un bon travail en maximisant toute la quantité de produits qui est maximisée dans la chefferie de Watalinga.
Et sur place, quels sont les mécanismes qui sont mis en place afin que cette production soit améliorée?
Oui, nous avons d'abord la technique qui est là. Nous avons des agronomes, surtout les agronomes de nos sociétés, c'est-à-dire les agronomes pris en charge par nos sociétés, notamment ESCO, SICODEP, Congo KO. Et nous avons aussi l'ONAPA qui est là, qui est l'office et surtout les services attitrés pour le secteur agricole. Malheureusement, nous pouvons quand même le dire, et nous voyons en tout cas son implication pas suffisamment dans l'encadrement des petits planteurs, mais aussi pour donner conseil aux producteurs. Et donc, chacun à son niveau, s'il devrait se mettre et aussi se mobiliser, en tout cas, j'assure tout le monde que la chefferie de Watalinga serait parmi les greniers agricoles du territoire de Beni.
David Moise, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.